France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà! Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Renée Goude, poétesse, tuée le 7 janvier. Et Alex Préti, infirmier, tué le 24 janvier. Tous les deux étaient citoyens américains, tous les deux avaient 37 ans. Tous les deux tentaient de s'opposer aux opérations violentes de la police des frontières et du service de l'immigration. Que dira-t-on dans les livres d'histoire des deux morts de Minneapolis? Incarneront-ils le début d'un soulèvement contre la dérive fasciste du gouvernement des États-Unis? Dès le 27 janvier, Bruce Springsteen enregistrait une chanson « Streets of Minneapolis » où dans le refrain qui gronde « Ice Out Now », ICE désigne à la fois l'acronyme de la police de l'immigration et le gel qui fige l'hiver de nos mécontentements. Comment figurer ce spectre de la violence politique? Comment donner à voir cette vieille histoire de la banalité du mal en Amérique? Il fut un jour, dans la vie de Philip Guston, où, à la fin des années 60, le peintre abandonna la souveraine liberté que lui offrait l'abstraction pour s'engager dans la figuration. « Toute cette pureté m'a fatigué et rendu malade, dit-il. Je voulais raconter des histoires. » Nous aussi, nous voulons raconter des histoires, alors allons-y voir. Raconter des histoires, ou plutôt faire des histoires. D'ailleurs, allons-y voir en compagnie de Didier Ottinger et Christian Joschke, bientôt rejoints par notre sociétaire du jour, Manuel Charpie, à l'occasion de l'exposition que le musée Picasso consacre à Philip Guston. Allons-y voir pour tenter de comprendre comment il convient de se tenir face à la violence de l'histoire et s'il est possible encore d'entretenir un rapport à la fois ironique et engagé au monde. Allons-y voir, puisque, comme le disait Philip Guston lui-même, ce qui nous appartient, c'est d'essayer de rester vivant, de continuer, de ne pas mourir.
I love painting. I mean, painting is my life. Painting is what I live for. There's too much of a love affair in modern art, you know? Painters could put down some swatches of color and everybody responds. I think I wanted more and more specificity. I think when I paint this or that, I'm still in 1940 or 50 or in the 50s. Yeah, I mean, I don't know what I'm going to do. That's why the comments about style sound strange to me. You know, you work in this style or in that style, as if you had a choice in the matter. What you're doing is trying to stay alive and continue, not die.
Philip Guston dans le film de Michael Blackwood en 1981. Bonjour Didier Ottinger.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art et conservateur général du patrimoine, directeur adjoint chargé de la programmation culturelle au Musée national d'art moderne, centre de création industrielle du Centre Pompidou. Eh ben oui, j'ai pris tout mon élan. À Beaubourg, vous avez été commissaire d'exposition mémorable sur Jean Hélion, le futurisme, Magritte, David Hockney et Bacon. Et si l'on veut voir actuellement une de vos expositions, ben il y a deux solutions. Soit vous nous écoutez depuis Pékin, ce qui arrive, alors vous précipitez à l'exposition Couleur, chef-d'œuvre du Centre Pompidou. Si vous êtes à Paris ou si vous y allez, eh bien, vous vous précipitez à l'exposition qui se tient au Musée Picasso jusqu'au 1er mars. Philip Guston et l'ironie de l'histoire. Je pense que vous teniez à cette notion d'ironie qui va avec l'engagement, justement.
Alors, elle a plusieurs significations en regard de ce qu'est l'histoire et ce qu'est la peinture de Philip Guston. L'histoire immédiate, c'est effectivement la mécompréhension dont a fait l'objet l'œuvre de Guston récemment, lorsqu'une première fois, elle a été programmée aux États-Unis et annulée sous prétexte qu'elle pouvait choquer oui. certaines communautés.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, les artistes, les jeunes artistes, s'intéressent beaucoup à Philip Guston parce que précisément, il leur donne une possibilité, au fond, d'une figuration qui n'est pas frontale, au fond.
Oui, c'est un des intérêts, et en fait l'intérêt de Philip Guston, il remonte aux années 80, c'est-à-dire qu'il est la figure emblématique qui autorise un certain nombre de jeunes artistes de s'émanciper du discours du formalisme de l'époque pour se lancer à corps perdu dans la figuration.
Bonjour Christian Yoschke.
Bonjour.
Vous êtes professeur aux Beaux-Arts de Paris, après avoir enseigné à Lausanne, Vienne, Berlin, Toronto, Princeton. Vous êtes aussi germaniste, hein, traducteur de Belting et de Bredekamp. Votre champ de spécialité, ce sont les rapports entre l'art, l'engagement politique et la photographie. Co-fondateur de la revue Transborder, vous avez publié chez Macula « La révolution suspendue », photographie et presse communiste dans l'Allemagne de Weimar. Et le 19 février sort chez Gallimard votre nouveau livre « Le tribunal de l'histoire, Philip Guston et l'antifascisme américain ». Ça tombe bien, hein ?
Ça tombe bien.
Ça tombe assez bien, ou très mal d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour vous, c'est le tableau lui-même qui, au fond, est une scène de tribunal. Hein, c'est ça.
Oui, tout à fait. Guston utilise la métaphore du tribunal à plusieurs reprises à la fin des années 60 et au début des années 70 pour décrire la peinture. On connaît la métaphore utilisée pour le théâtre. Le théâtre est une sorte de tribunal. Elle est plus énigmatique dans le cas de la peinture, mais ce qu'il désigne par cette métaphore, ça n'est pas le fait que la peinture doive porter un jugement ou accuser ces personnages, mais plutôt offrir au spectateur, à la spectatrice, la possibilité de se projeter dans différents rôles.
C'est ça. Alors justement, différents rôles, je pense que c'est pour ça, pour toutes ces raisons que vous venez de dire, l'un et l'autre, que vous avez choisi de commencer par un tableau très célèbre, hein, celui qui orne l'affiche de l'exposition dont on parle, qui est The Studio 1969. Comment on pourrait la décrire, Didier Ottinger ? D'abord, peut-être simplement, oui, c'est un théâtre, c'est à la fois une scène très classique d'autoportrait à l'atelier. On ne peut pas faire plus classique.
On ne peut pas faire plus classique, effectivement. C'est la représentation d'un artiste dans son atelier qui est en train de réaliser son autoportrait.
Voilà.
Pour faire très simple.
Et cet autoportrait, il est théâtralisé par le fait qu'il y a derrière, justement, des tentures qui s'ouvrent, une fenêtre. Comment vous voyez ça?
Le personnage est placé contre un mur rose, et c'est vrai qu'on décerne des espèces de comme un rideau de théâtre qui s'ouvre sur la scène. Et voilà, c'est un personnage qui est vêtu de la robe blanche et de la capirote, la cagoule pointue blanche percée de trous qui est caractéristique du costume des membres du Ku Klux Klan, et qui peint, une cigarette à la main, un tableau de chevalet représentant un même personnage cagoulé. Il peint son autoportrait.
Il y a deux mains, deux grosses mains.
Deux grosses mains, et au premier plan, des pinceaux. Enfin, c'est la représentation assez typique, assez classique de l'artiste dans son atelier.
Alors c'est à la fois terrifiant, évidemment, Didier Ottinger. Et en même temps, ces personnages, évidemment, dans l'exposition, on les voit depuis longtemps, hein, ils sont presque enfantins, ce sont des fantômes pour apparemment familiers, ce sont les Little Bastards, dont, au fond, qu'ils dessinent depuis bien longtemps.
Je peux revenir sur l'autoportrait de 1969 parce qu'en fait, c'est un petit résumé de certaines sources très importantes pour Philip Guston. Il y a une horloge.
Eh oui.
Vous voyez, sur le mur de l'atelier, et ça renvoie effectivement au choc fondateur pour Philip Guston, qu'est sa découverte de l'œuvre de Quirico à la fin des années 20. Il y a une ampoule qui renvoie, elle, au Guernica de Picasso, c'est-à-dire à une grande référence de la peinture politique. Il y a une fenêtre en arrière-plan qui reproduit peut-être un schéma par son ironie, elle est verte celle-là,
renvoie
peut-être au camarade Mondrian, que l'on retrouverait peut-être aussi dans la composition qu'il est en train de réaliser sur son chevalet, où on esquisse un jeu d'orthogonal qui annonce effectivement Mondrian. Et puis, dernier détail très important, deux mains, vous l'avez dit, dont l'une est gantée de blanc, et là, c'est la main de Mickey Mouse.
C'est celle qui fume.
Voilà. C'est le gant de Mickey Mouse.
C'est le gant de Mickey Mouse, mais elle fume comme un revolver qui vient de tirer.
Et on voit bien qu'il introduit la culture populaire au milieu de références artistiques très, très anciennes, très profondes. Le style des années 60 est marqué par cette référence aussi aux comics. On le voit dans ce tableau.
Évidemment, ce qui nous intéresse dans ce tableau, c'est que, puisque nous parlons de point de bascule, y compris du point de vue politique, là, son art est en train de basculer. Il avait commencé par toutes ces références que vous dites, Didier Ottinger, en particulier Quirico, Picasso, le surréalisme. Et puis, il avait versé dans cet expressionnisme abstrait qui était, d'une certaine manière, l'art d'avant-garde, j'allais dire presque officiel, en fait, de Greenwich Village. Et puis là, il est en train, sous l'effet de quoi, Christian Jochke? Peut-être d'une prise de conscience politique, de basculer?
Oui, la prise de conscience politique, elle est antérieure, elle est là dès le début de son œuvre. Mais il éprouve à ce moment, à la fin des années 60, on est en 67-68, la nécessité d'inclure des thèmes politiques dans son travail artistique, voyant que l'abstraction ne répond plus à ces angoisses du moment. Oui. La lecture des journaux, donc la guerre du Vietnam et le mouvement de défense des droits civiques.
Alors écoutez, je vais faire mon bon médiéviste. Toute image au Moyen-Âge commence à être décrite depuis son fond. Et ce fond est rose et ça veut certainement dire quelque chose. Alors on écoute le grand médiéviste Michel Pastoureau nous parler en 2024 du rose.
Pendant très longtemps, le rose existe dans la nature, commence à être présent dans la peinture et on ne sait pas le nommer. Donc, si on le cherche dans les textes, où est-il? Et il faut vraiment attendre le milieu du Moyen-Âge, le XIVe siècle même, pour que là, enfin, il y a une famille de mots qui émergent, des termes qui renvoient en général à la chair, à la carnation, en latin, incarnatus en latin, incarnato en italien, incarnadin en français, carnation en anglais... Voilà, c'est la première nomination un peu stable pour dire le rose à partir du XIVe siècle. C'est à partir du moment où les teinturiers parviennent à faire des beaux roses stables sur l'étoffe et commencent même à les diversifier.
Alors je me tourne vers vous, évidemment, Didier Ottinger, puisque j'ai parlé de votre exposition pékinoise sur les couleurs. Pour les raisons que dit Michel Pastoureau, parce que c'est la couleur de l'incarnation, c'est la couleur interdite de l'abstraction.
Évidemment, c'est tout à fait incompatible avec cette idée de l'abstraction qui élève et qui arrache à notre condition humaine pour nous faire évoluer dans la sphère de l'idéalité. Mais c'est aussi une couleur, Michel Pastoureau l'a rappelé dans son livre, qui est associée à la féminité.
Et oui.
Or, les avant-gardes ont banni aussi le rose. Il y a des déclarations très violentes de Marinetti, celui qui rédige le manifeste de la première avant-garde historique, qui rejette le rose. On peut dire aussi que toute l'histoire moderne, celle des avant-gardes, est une histoire viriliste.
Oui.
Et dès lors, le rose n'a absolument pas sa place dans ce récit.
Ce qui n'est pas du tout le cas ici, Christian Jochke. Cette couleur rose de son indignation politique, elle définit au fond son rapport justement à la violence.
En effet, mais c'est aussi le rôle, en effet, le rose de la carnation, qu'il va salir de ses traits de pinceau. Il emprunte, en tout cas, il réutilise une technique qu'il avait beaucoup pratiquée lors de la période abstraite, c'est-à-dire qu'il utilise il mélange les couleurs à même la toile sur la peinture encore humide, et ce qui crée ces mélanges et ces salissures.
Cette touche qu'on va appeler le bad painting, en
oui,
fait, c'est ça?
Oui, bad painting, et même on a employé aussi le mot wet painting, parce que c'est une peinture humide, on voit qu'elle a été travaillée encore humide sur la toile.
Donc là, c'est un rose qui est sale, ou plus exactement qui est sali par l'histoire, Didier Ottinger.
Et c'est vraiment une position tout à fait manifeste. C'est-à-dire que juste avant de réaliser ce tableau, en 1966, il faut se souvenir que Philip Guston, encore célébré comme grand héros de l'expressionnisme abstrait, bénéficie d'une grande exposition au Jewish Museum de New York, et toutes les peintures qu'il montre à ce moment-là sont grises et noires.
Oui.
Et ça nous renvoie évidemment, là aussi, en ce qui concerne la peinture moderne, à l'identification qui a été opérée par un philosophe comme Stoderlich, qui a consacré un ouvrage au gris, dont il fait la couleur emblématique de la modernité.
Rose est la couleur du catalogue que vous avez dirigé chez Gallimard et Musée Picasso Paris sur Philippe Guston, l'ironie de l'histoire. Catalogue de cette exposition qui tourne autour de toute une série de dessins qu'il a justement fait pour, enfin, avec Philippe Roth. Et là encore, c'est très intéressant parce que c'est le moment où Philippe Roth écrit Our Gang, c'est-à-dire sur voilà l'administration Nixon comme association de malfaiteurs, comme gang de, enfin, gangsters. D'une certaine manière, ça nous parle aujourd'hui. Alors là, on est dans la veine caricaturiste, hein.
Oui, c'est quelque chose en fait qui traverse toute l'œuvre de Philippe Guston, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'exposition du musée Picasso. Elle est première dans le sens où dès l'âge de 12 ou 13 ans, sa mère l'inscrit à une école par correspondance de dessin de bande dessinée et de caricature. On va retrouver, y compris dans les années 50, dans le moment le plus abstrait, une activité de caricaturiste, et ça aussi c'est présent dans l'exposition, où on voit tous les membres de l'école de New York. Ça veut dire que d'une main, ils peignaient les peintures abstraites, et de l'autre côté, ils peignaient ses caricatures. Et puis évidemment, tout ça s'ancre dans une source très très précise, fondamentale pour lui, c'est sa découverte d'une bande dessinée de Picasso, on peut l'appeler comme ça, que sont les Songes et mensonges de Franco, que réalise Picasso en 1937 pour dénoncer les excès du gouvernement franquiste. On est en pleine guerre civile espagnole.
On parle de l'écrivain Philippe Roth. Écoutez-le à la Grande Librairie de France 5, c'était en 2015.
Portnoy et son complexe vient après le mouvement des droits civiques, après le mouvement de libération de la femme et en pleine guerre du Vietnam. Tous ont été des événements politiques et culturels majeurs qui ont eu un effet libérateur. Et j'ai fait partie de ceux qui ont été libérés. J'ai profité de cette libération. J'étais jeune dans les années 60. Et moi, j'ai vécu cet éveil. Vers la fin des années 60, j'ai été infecté par le virus de la libération. Et j'ai dit l'indicible. Ce n'était pas mon objectif. J'ai tout simplement éclaté, comme une explosion.
Christian Joschke, on a d'abord posé les bases, hein, les grands mouvements de l'œuvre de Guston, le passage à la figuration, mais en réalité, l'engagement, il est constant. On comprend effectivement, à écouter Didier Ottinger, que également ce désir d'engagement dans le dessin, il est premier, et évidemment, c'est quand même la grande constance de la vie de Guston, l'engagement politique.
Oui, en effet, au début de sa carrière d'artiste, il éprouve une sorte d'injonction contradictoire. D'un côté, il est attiré par une peinture métaphysique, par la référence, en effet, à De Chirico, à Picasso, un certain surréalisme de la côte ouest américaine, qui est représenté notamment par Lorcer Faitelson, dont il reçoit l'enseignement. Et en même temps, à côté ou en parallèle de cette aspiration un peu cosmique, il est travaillé par la question politique. Los Angeles est bouleversé par les mouvements sociaux au début des années 30, des grèves très importantes, réprimées violemment par la police et en particulier aussi par les membres du Ku Klux Klan. Et donc le conflit social est partout. Et lui, issu d'une famille juive, son meilleur ami...
Une famille d'Odessa,
famille d'Odessa, on reviendra peut-être sur cette origine. Ruben Kadish, son père est syndicaliste, et donc il essaye d'inclure la question politique très vive du moment dans son travail d'artiste.
Didier Ottinger, cette présence quand même fondamentale, et dans l'histoire américaine, et dans l'œuvre de Philippe Guston, de la violence, évidemment. Là, on est face au Ku Klux Klan. Et non, vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Violence tout à fait tempérée, parce qu'en fait, il faut rappeler, évidemment, une des sources capitales pour Philippe Guston, c'est son contact avec les fresquistes mexicains.
Oui.
La grande école, qui est une école dominante, y compris aux États-Unis, y compris sur la côte Est, est celle de cette peinture post-révolutionnaire mexicaine.
Viva, d'ailleurs.
Voilà.
Oui.
il rencontre ces artistes et il trouve un équilibre entre l'engagement politique de cette peinture révolutionnaire mexicaine et ses grandes références classiques. Il est fasciné par la fresque. C'est important parce que c'est pas le tableau de chevalet, c'est vraiment un art social, un art public. C'est ça qui l'intéresse. Et lui essaie, il applique une sorte de synthèse entre les sources d'Orozco, de Rivera ou de Siqueiros et Masaccio et Signorelli, dont il admire les œuvres dans les églises italiennes.
Bah une fresque, tenez, voilà, celle-là, je vous la...
La fresque de Morelia, merci.
Christian Joschke, qu'est-ce que vous pouvez la décrire ?
C'est une fresque très complexe qui est une fresque contre le fascisme. C'est le titre de la fresque.
Donc là, c'est direct et frontal. Hein.
Et c'est direct et frontal. C'est une dénonciation de la violence politique qui brosse une sorte de tableau très, très complexe de la violence politique depuis l'Inquisition jusqu'au nazisme. On voit des références aux croix gammées. Au registre inférieur, des personnages se font torturer ou assassiner par des bourreaux. Au registre supérieur, il semble vouloir s'émanciper de cette violence et rejeter les inquisiteurs et les membres du Ku Klux Klan vers le bas. Et tout en haut s'ouvre une sorte d'espace qui renvoie un peu au Quattrocento. L'organisation de la perspective est d'ailleurs très, très complexe, mais elle est en référence directe en fait aux fresques italiennes, et cet espace conduit sur une sorte de paysage très un peu toscan qui semble vouloir offrir une sorte de rédemption.
Et là, on est en quelle année, Christian Joschke ?
On est en 1933.
Et oui, et donc la question, elle est là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Didier Ottinger, on peut faire une œuvre... on va presque dire de propagande, et finalement, ce qui va lui être reproché quand il revient à la figuration par, on va dire, le grand inquisiteur de l'expressionnisme abstrait, c'est de s'éloigner de cette expression de la liberté. De la liberté absolue de l'artiste américain qui, justement, ne fait pas du réalisme socialiste.
Voilà, ça a été un des grands débats de la fin des années 30 aux États-Unis autour de la question de l'engagement. C'est tous les débats qui avaient lieu dans une revue qui était très affiliée à la sensibilité trotskiste, Partisan Review, où là se développe une pensée, Meyer Shapiro, Clement Greenberg, qui vont...
C'est Greenberg, le grand inquisiteur.
C'est Greenberg, le grand inquisiteur, lui. Alors lui, vraiment... Et là, on affirme qu'il y a une autre voie possible qui permet aux artistes d'être à la fois révolutionnaires et d'être en même temps des artistes modernes, c'est la voie de l'abstraction qui va conduire à l'expressionnisme abstrait. Donc il y a un moment où dans l'histoire de l'art américaine, du point de vue de la réflexion des théoriciens et des historiens d'art, le projet politique iconographique est totalement évacué de ce qu'on appelle et ce qui se met en place, le récit d'un art moderne qui va devenir le modernisme. C'est ça qu'il faut...
Christian Joschke. Tout ça, d'une certaine manière, est pris à ce moment-là, à la fin des années 50, dans la guerre froide et dans les grands mouvements du monde.
Oui, tout à fait. Alors, il faut quand même rappeler que il y a trois périodes dans l'art de Guston. Il y a cette période figurative qui commence avec ses débuts et qui court tout au long des années 30 et 40. En 1947, dans les circonstances que Didier Ottinger vient de rappeler, il décide de passer à l'abstraction, non sans une période d'introspection un peu douloureuse, de crise. On parle pour Guston d'un tempérament dépressif. Il subit plusieurs crises dans sa vie, notamment donc en 47, et finalement il décide de s'engager de plein pied dans l'abstraction. Au cours d'une période d'une vingtaine d'années, il appartient à cette école de New York de l'expressionnisme abstrait. Il est très proche de Jackson Pollock puisqu'il a fait, il était au lycée avec Pollock à Los Angeles. Et Guston est un des artistes les plus connus de cette école de New York.
Away from me, kick, 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 took my baby away.
Patrick Boucheron.
The KKK took my baby away par The Ramones en 1981. Mais enfin, le Ku Klux Klan, c'était avant, c'était après, c'était pendant, c'est maintenant. D'une certaine manière, c'est l'insistance de cette violence politique en Amérique et sa banalité que peint Philip Guston. Et vous, vous pensez, Christian Yoschke, que d'une certaine manière, non seulement il peint la banalité du mal en Amérique, mais au fond son énigme.
Oui, alors le terme d'énigme ou d'énigme dans la peinture a été beaucoup utilisé pour qualifier l'œuvre de Guston. Pour quelle raison? Parce que dans le fond, il ne donne pas les clés de l'interprétation de ses œuvres et il reste toujours un peu ambivalent, c'est-à-dire que ces personnages cagoulés, il les rend presque un peu sympathiques en les peignant dans un style de comics. C'est comme si il cherchait à les absoudre, et en réalité c'est plutôt qu'il cherche à se projeter lui-même. Oui. À l'intérieur de, enfin, dans ces personnages, pour comprendre le mal de l'intérieur. C'est une sorte d'ambition un peu masochiste d'un peintre qui cherche à comprendre l'énigme du mal. C'est ainsi qu'il en parle. À travers la peinture.
Vous ne diriez pas ça comme ça, Didier?
Oui, j'aurais peut-être une autre interprétation du sens de cette énigme. En fait, c'est l'ambiguïté de la posture morale qui va être la question centrale de Philip Guston.
Oui.
Et ce lien permanent entre les postures interchangeables du juge et de l'accusé, du coupable, dont il va trouver une sorte de source dans la littérature de Dostoïevski, qui va retrouver dans une lecture qui va être une lecture absolument permanente chez lui, de Camus, d'Albert Camus,
oui.
Voilà, oui. Et qui va être illustré, il va le dire à plusieurs reprises, par la position historique et la réflexion absolument tragique d'un personnage comme Isaac Babel.
Alors ça, on va y revenir, mais déjà, oui. Effectivement, on revient d'une certaine manière à notre image, à notre tableau, Studio 1969, parce que, rappelons-le, c'est peut-être ce que vous appelez aussi l'ironie, Didier Ottinger, c'est un encagoulé du Ku Klux Klan qui peint un encagoulé du Ku Klux Klan.
Alors, sans être trop pédant, l'ironie en question, en fait, pour moi, elle définit entièrement le projet artistique de Philip Guston, et c'est le sens que les romantiques allemands ont donné à ce terme d'ironie, c'est-à-dire la conscience du poète qui aspire aux idées les plus élevées, aux valeurs les plus sublimes, et qui est dans le même mouvement et conscient de son indigence, de sa finitude, des moyens dérisoires qu'il emploie pour atteindre cet idéal.
Oui, c'est l'ironie, mais c'est aussi l'idiotie du réel, d'une certaine manière, à laquelle il se cogne. Hein. Et cette idiotie du réel, dans votre livre, Le tribunal de l'histoire, Christian Yoschke...
Tribunal de l'art.
Le tribunal de l'art, excusez-moi, l'histoire me vient spontanément,
oui,
le tribunal de l'art. Ben justement, vous évoquez cette scène kafkaïenne mais vous êtes d'accord au fond de ce procès où on ne sait pas qui.
Oui,
qui.
Je partage tout à fait l'analyse de Didier Ottinger sur l'indétermination morale des tableaux de Guston, de la position même de l'artiste. Il en parle lui-même quand il utilise cette métaphore du tribunal. Ça n'est pas pour accuser les criminels qui sont aux yeux de tous des criminels, bien entendu, mais c'est pour pour ouvrir vers cette indétermination morale. La référence à Kafka, en effet, elle est constante. Vous avez parlé de
Dostoïevski. Elle est constante chez lui.
Elle est constante chez lui, oui.
C'est vous qui le commentez, mais chez lui qui...
Lui a lu Kafka dès ses premières années de jeunesse, mais aussi on lit Kafka beaucoup dans les années 50, en particulier la traduction du procès de Kafka, que Hannah Arendt a d'ailleurs contribué à commenter, à interpréter à la fin des années 40. Et c'est cette image du procès et de la violence politique qu'il est, l'absurdité aussi de cette violence qu'il emprunte dans sa peinture.
Alors on va continuer effectivement à environner Philippe Guston de ces figures d'écrivains. Voilà, il y a Kafka. Alors vous venez de donner le nom qui vous importe beaucoup, Didier Ottinger, Camus de Sisyphe.
Alors Sisyphe, en particulier, le mythe de Sisyphe, c'est la description de la tragédie humaine. Et si on veut... C'est étonnant que Philippe Guston s'identifie à Sisyphe. On voit dans les derniers tableaux, les dernières compositions, la figure de Guston réduite à cette boule énorme qui est sa tête et qui semble cheminer sur une pente inclinée à la façon dont Sisyphe essaie de hausser son caillou de façon permanente. Donc, oui, Camus est très important. On revient sur Kafka parce que moi, je purgerai Kafka du pathos suggéré par le contexte du procès pour dire ce qui l'intéresse chez Kafka, c'est ce qui l'intéresse chez Gogol, un autre auteur russe, c'est pas un hasard, c'est la truculence et le comique qui est dans cette œuvre-là. On a tendance, nous, Français, à lire Kafka d'un point de vue très dramatique et sérieux. Il faut se souvenir, on le sait tous, que Max Brod raconte son éditeur, son ami intime, que quand Kafka lisait les manuscrits de ses propres textes, il mourait de rire, il éclatait de rire.
Alors là, vous ne pouvez qu'être d'accord comme germaniste, Christian Jochke. On est trop sérieux en France quand on lit Kafka.
On est trop sérieux quand on lit Kafka. Le procès, le tribunal agit contre K à travers une sorte d'organisation grotesque qui est la justice. Kafka écrit dans le procès, c'est une organisation qui non seulement occupe des inspecteurs vénaux, des brigadiers et des juges d'instruction stupides, mais qui entretient encore des juges de haut rang avec leurs indispensables et nombreuses suites de valets, de scribes, de gendarmes et d'autres auxiliaires, etc., etc. Donc il décrit vraiment de façon très comique, avec des scènes très presque burlesque de flagellation dans un placard à balai de deux personnages. Bref, l'écho que fait Guston à Kafka passe évidemment par l'humour et par l'ironie.
Et puis pour poursuivre, pour compléter la bibliothèque de Philippe Guston, vous avez lancé le nom de Isaac Babel. Écoutez Pierre Pachet en parler, c'était dans Toute une vie, France Culture 2020.
Son talent, c'est de, par exemple, il décrit une rivière, le Zbruch. Alors, il y a ce calme et la violence est perceptible dans la disposition des éléments. La tranquille Voligny, donc c'est une région proche de la Galicie, la tranquille Voligny serpente, elle s'éloigne de nous dans la brume nacrée des bois de bouleaux, elle se faufile à travers les collines fleuries et ses bras alanguis se perdent parmi les buissons de houblon. Voilà le calme de la nature cultivée. Un soleil orange roule dans le ciel comme une tête tranchée. Alors voilà, c'est la violence... Avant même que quoi que ce soit évoqué de la sauvagerie de la guerre, de cette cavalerie cosaque que Babel a rejointe, pour avoir de quoi nourrir son écriture. Ou bien, progressivement, donc le soleil roule comme une tête tranchée, une tendre lumière flamboie dans les fissures des nuages, les étendards du couchant flotte au-dessus de nos têtes. L'odeur du sang de la veille et des chevaux tués s'égoutte dans la fraîcheur du soir. Alors, il est unique dans la capacité à s'approcher de la violence et il la transmue et en même temps, il la voit dans toute sa cruauté. Sa cruauté, c'est précisément qu'elle est, à certains égards, elle est belle.
Voilà une autre tête qui roule, Didier Ottinger. Alors, il faut bien que ça soit pas de la violence, mais enfin, on n'est pas loin.
Il faut peut-être apporter une petite note en bas de page à ses commentaires, en disant pourquoi particulièrement Philip Guston était tellement fasciné par l'œuvre de Babel, et en particulier par sa cavalerie rouge. C'est-à-dire que l'histoire de la cavalerie rouge, c'est celle d'un jeune personnage d'Odessa, jeune juif, qui rejoint par idéal révolutionnaire une unité de cavalerie composée de cosaques, et il chevauche au milieu des cosaques, qui n'hésitent pas pendant leur campagne à continuer ce qu'ils faisaient déjà avant, c'est-à-dire opérer des pogroms.
C'est ça.
Et c'est la tragédie de l'histoire par excellence. Et c'est l'histoire de Guston qui revêt la tunique des membres du clan un peu de la même façon. Il a été l'artiste moderne porté par cet idéal de liberté, d'émancipation qui est inhérente au projet moderne, et en même temps, il en a trouvé les limites. Il le reconnaît comme étant bigot au moment où lui revient à la figuration.
Et ça, c'est la terreur, effectivement, de Guston, Christian Jochkeus, c'est d'être embrigadé dans ce mouvement de l'histoire qu'il cherche à contrarier par son art.
La famille de Guston garde le souvenir d'Odessa, le souvenir des pogroms du début du XXe siècle, et c'est ça qui le rapproche de Babel. Il faut dire que, en effet, Babel était journaliste, il était étudiant de lettres, et il s'embrigade dans la cavalerie rouge pour témoigner de la guerre civile, et il assiste à des meurtres horribles qu'il décrit, des meurtres de villages entiers juifs qu'il décrit dans son texte. Et Babel est une référence commune de Guston et de Philip Roth.
Cette insistance pour justement une violence qui s'est installée et banalisée, en l'occurrence ici en Amérique, mais ailleurs également, eh bien, elle a justement cette cagoule que Philip Guston peint comme un bonnet d'enfant, mais dont on sait bien effectivement que c'est un spectre terrifiant. Je sais pas, peut-être que c'est de ça dont veut nous parler Mathieu Pot-Bonneville, directeur du département culture et création du Centre Beaubourg, dans sa carte postale qu'il vient de nous envoyer.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, à qui viendrait l'idée d'écrire une histoire politique des capuches, au sens large, entendons-nous, capuche, capuchon, cagoule, cache-nez, passe-montagne? Je recommande le visionnage de la remarquable série produite en 2019 par HBO et signée par Damon Lindelof. Intitulée Watchmen, elle se propose moins d'adapter le célèbre roman graphique du même nom que d'en proposer un prolongement original. Dans sa version BD, Watchmen retraçait la compromission durant la guerre froide de quelques super-héros avec l'impérialisme américain. Dans la série, on prolonge le récit dans l'Amérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans celle de 2019 qui n'était pas encore tout à fait la nôtre. Dans Watchmen, les capuchons sont partout. Le recours au masque n'est plus réservé au seul justicier solitaire, aux vigilantes, mais il devient d'usage courant, chez les inspecteurs comme chez les policiers en tenue, chez les terroristes comme chez les fans qui se déguisent en leurs personnages préférés. À l'aristocratie des héros masqués, le réalisateur semble opposer une forme de démocratisation du droit à se couvrir le visage, la société comme balle des masques. Ou plutôt, Watchmen entend tirer toutes les conséquences d'une corrélation trop rarement soulignée et qui donne le vertige. Le pays dont la bande dessinée nous a donné Batman, ou le Spirit de Will Eisner, en bref, des héros masqués, est aussi le pays qui a inventé le Ku Klux Klan, ses robes et ses chapeaux pointus. Et c'est encore ce même pays où rabattre la capuche de son sweatshirt, de son hoodie, a valu au jeune Trayvon Martin et à tant d'autres d'être abattu par la police. Autant dire que le port de la capuche, du capuchon, de la cagoule, n'égalise nullement les conditions dans un anonymat bienheureux. Il dessine une économie de la peur, dont il assure une forme de distribution différentielle. Je veux dire que certains se couvrent la tête pour faire peur, quand d'autres le font parce qu'ils ont peur. Certains en usent comme d'une menace, entendent inspirer la terreur par l'abolition de leurs traits, quand d'autres rabattent hâtivement la capuche sur leurs yeux et accélèrent le pas, mais ce faisant, donnent au voisinage un prétexte pour les juger d'autant plus menaçants. La discrétion derrière laquelle le sweatshirt permet aux adolescents noirs de se retrancher les expose davantage. Il y a donc, pour user des grands mots, dans cette histoire politique des capuches, comme une double dialectique. Celle qui noue l'invisibilité que les capuches procurent à la visibilité qu'elles redoublent, celle qui lie la peur qu'elles suscitent à la crainte qui peut conduire à s'en coiffer. Cela se complique donc, au point que la série Watchmen joue à imaginer une situation étrange. Si les forces de l'ordre y sont masquées, cache-nez jaune remonté jusqu'aux yeux ou cagoule miroitante, c'est pour se protéger, elles et leur famille, de la menace d'un groupe de suprémacistes blancs, la 7e de cavalerie, avec un K, qui multiplie les attaques contre une police qu'ils jugent gangrenée par les politiques de diversité. La série date de 2019, autrement dit, quelques années avant que les forces de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, la police aux frontières, se mettent à recourir massivement aux cagoules, aux cache-nez et aux passe-montagnes, arguant d'une prétendue menace antifa pour faire régner un ordre blanc, prétendant à leur tour avoir peur pour trouver dans l'anonymat ascendant et impunité. Cher Patrick, tout en s'appliquant à démasquer les masques, la série Watchmen était scandée par la sentence de Juvenal « Quis custodiet ipsos custodes ?» « Qui gardera les gardiens ?» Pour le coup, on peut le dire avec le recul, c'était assez bien vu.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Cela se complique donc, je retiens l'expression de Mathieu Pot-Bonneville, et on complique effectivement ensemble, Christian Yoschke, Didier Ottinger, la perception qu'on peut avoir, y compris de l'œuvre et de sa dynamique de Philippe Guston.
Oui, parce que au-delà de cette rupture qui semble absolument phénoménale entre une peinture qui est celle de l'abstraction la plus radicale et la figuration la plus grotesque, il y a cependant une forme de continuité. Et cette continuité-là, elle pourrait être liée à l'automatisme, c'est-à-dire à la façon dont l'avant-garde américaine des années 40 a assimilé les leçons du surréalisme et a produit un expressionnisme abstrait qui est une forme d'automatisme. Évidemment, Guston en est partie prenante lorsqu'il devient un peintre abstrait à la fin des années 40, et il ne la renie pas sa peinture figurative, qui devient, dans les années 77-78, à la fin de sa vie, une sorte d'automatisme imagé, où les images s'imbriquent les unes les autres, où lui-même ne sait pas où il va, il raconte le désarroi.
Il y a une vie des formes.
C'est évidemment Faucillon, vous le dites, dont il lit l'ouvrage et qui est vraiment quelque chose de très important pour lui, la vie des formes. Mais lui, il en fait un usage un peu forcené, un peu délirant, au point d'imaginer que la peinture devient une entité vivante. D'où la fascination qu'exerce sur lui Rembrandt, dont il dira, pour résumer l'œuvre de Rembrandt, il fabrique des golems. C'est-à-dire que sa puissance est telle que ses images sont animées de vie.
Ah oui, ce sont des golems. Ce sont des golems, ces encagoulés également, qui reviennent forcenés et également obsessionnels, parce que ça décrit quelque chose, Christian Yoschke, qui vous tient à cœur aussi dans votre livre « Le tribunal de l'art ».
Oui, alors, je reviens sur ce que vient de dire Didier Ottinger. En effet, on a tendance à accentuer dans la biographie de Guston les moments de rupture où il passe de la figuration à l'abstraction, puis de l'abstraction à la figuration. En réalité, il y a une double continuité, celle que vous venez de décrire, l'automatisme, qui perdure après le retour à la figuration, qui n'est pas vraiment un retour puisqu'il invente un nouveau langage. Ça n'est pas un retour au style des années 30. Il y a une double continuité aussi parce qu'il reprend dans cette période des années 70 des motifs qu'il a travaillés, dont il a peuplé ses tableaux des années 1930, la référence à Chirico, à Picasso, la référence au Quattrocento, le thème de la conspiration, les personnages cagoulés, etc.
Ah, je vous entends, les deux historiens de l'art. Enfin, c'est quand même aussi beaucoup la culture populaire. On parlait de Watchmen avec Mathieu Pot-Bonneville, le comics. Enfin, on va à la fin vers justement également une bad painting, y compris du point de vue des codes culturels.
Absolument. Le rapport à la culture populaire lui vient aussi de ces jeunes années, la lecture d'un comics américain très populaire dans les années 30 qui est Crazy Cat. Et lui-même avait donc gagné des concours d'illustrateur pour la presse avant d'entrer à l'Otis Art School de Los Angeles. Et quand il cherche un nouveau langage en 67-68, il choisit d'emprunter le bad painting, c'est-à-dire un mélange entre culture populaire et référence classique de la peinture.
Allez, on parlait de Richard Nixon. On écoute Manic Street Preachers en 2004 chanter The Love of Richard Nixon. Voilà, Manuel Charpie, bonjour.
Bonjour.
Vous allez parler d'une image ?
Et non, d'un livre.
Ah bon ?
Changé. N'étant pas critique littéraire et très peu porté sur la biographie, je me suis dit que c'était une bonne idée d'évoquer l'autobiographie d'un artiste, en l'occurrence Georges Gross.
On en jugera tout à l'heure. Hein, vous voilà.
Ce livre s'appelle « Un petit oui et un grand non ». Il est publié en 1946 à New York et traduit et publié en France par Jacqueline Chambon, une femme. Mmh. Oh, une femme. Dans les années 90, et il est malheureusement aujourd'hui indisponible. Pourtant, l'artiste n'a rien de confidentiel. C'était un peintre, mais surtout un dessinateur dont on a croisé, au moins dans les manuels scolaires, les dessins témoignant de l'horreur de la Première Guerre mondiale. Il faut dire qu'il a été soldat en 1914. Il sort de la guerre transformé, évidemment, participe à la révolte spartakiste, et est arrêté et organise en 1920 la première foire d'Ada à Berlin.
Oui, c'est surtout ses dessins de sa vie berlinoise qu'on a en tête. Hein.
Oui, il dépeint la société allemande sous la République de Weimar, les effets de l'hyperinflation, la diffusion rampante du nazisme. Membre de l'Association des artistes communistes, ses dessins font qu'il est régulièrement condamné pour offense à l'armée du Reich, ensuite pour outrage aux bonnes mœurs, et enfin pour blasphème envers l'Église. Ses recueils de lithographies, dont le plus célèbre est sans doute Ecce Homo, publié en 1921, sont satiriques, pas des caricatures, mais une satire sociale et politique, une sorte de cabaret grinçant, la parade dans les rues d'une humanité abîmée. On y voit des hommes à la tête écrasée par leur chapeau melon, des gueules cassées, des marins égarés, des veuves de guerre joyeuses ou abattues, et des corps nus sans érotisme. Bref, un théâtre des solitudes et des relations forcées. Mais rassurez-vous, monsieur Boucheron, certaines images sont des reproductions d'aquarelles en couleur. Bon, elles n'égayent pas vraiment l'ensemble. L'aquarelle ressemble plutôt à des moisissures qui mangent le papier.
Et Gross vendait des livres ?
Oui, il vend ses dessins à la presse, mais aussi en recueil. Et les trois gros recueils de lithographie des années 20 sont une tentative pour diffuser ces images auprès du grand public. Et d'ailleurs, dans son autobiographie, très libre et très drôle, on trouve un conte, par contre un peu angoissant.
Eh oui.
C'est l'histoire d'un illustrateur qui ouvre une minuscule librairie à la campagne, dans une maisonnette qu'il repeint en rouge. Il y vend des eaux-fortes et des gravures sur bois, mais rien ne se passe comme prévu. Il est d'abord attaqué par l'Association pour la préservation des vieilles maisons paysannes et des costumes populaires. Puis on brise sa vitrine, on la couvre d'excréments. Et enfin, il est accusé d'écouter de la musique de nègre, de posséder de la presse russe et de lire des livres juifs. Ce petit conte, vous le devinez, oui, des années 30, se termine assez mal.
Et pourquoi en parler aujourd'hui, Monsieur Charpie ?
Eh bien, Monsieur Boucheron, parce qu'en lisant Georges Gross, on a l'impression, j'ai eu l'impression, de mieux comprendre Philip Guston. Il partage une manière de chercher, de changer de registre, une fausse idiotie et une esthétique politique. Il faut dire que Gross s'intéresse à toutes les esthétiques de son époque. Il va par exemple en URSS en 1922 voir le constructivisme et rentre un peu déprimé, comme il le dit. Il rencontre aussi De Quirico qu'on a évoqué. Et il a une phrase, il dit « Il a su introduire le cheval blanc en peinture ». C'est assez énigmatique. Et puis il part à New York en 1932 pour enseigner et voyant arriver le nazisme, décide d'y rester. Il faut dire qu'il avait un rêve américain de longue date. Enfant, il dévore des romans de James Fenimore Cooper. Il se souvient de la photo d'un paquebot transatlantique envoyé par un oncle d'Amérique. Et il écrit « Je me voyais parfaitement en illustrateur américain, un de ces heureux élus qui illustraient des nouvelles dans les magazines grand public. Jeune dessinateur, débutant et même par la suite, j'aimais contempler en cachette ce genre d'illustration fait pour l'homme de la rue. » Et donc, pour devenir un illustrateur grand public, comme il le dit, il découpe des milliers de photographies dans les magazines.
Et donc, on ne le connaît pas, en fait, vraiment pour ses illustrations commerciales.
Non, parce que d'un côté, dans cette période américaine qui dure jusqu'en 1959, il a produit des tableaux...
Peu convaincants.
Peu convaincants, exactement. On peut dire ça comme ça. Et du côté du dessin, ça ne marche pas exactement comme il l'espérait. Écoutez ce qu'il en écrit. Le malheur pour moi, qui admirait tant la simplicité et la normalité des illustrateurs américains, c'était que je me révélais bien incapable d'en faire autant. Il fallait toujours que quelque chose cloche, surtout dans mes aquarelles. La couleur bavait, mes visages étaient laids, genre cours des miracles. Moi qui aurais pourtant tellement aimé donner dans le joli, le gracieux, le normal. J'adorais voir cette imagerie états-unienne ratée par Georges Gross, sans doute assez proche de Guston. Et vous l'avez compris, Gross rappelle, dans ce livre avec une fausse naïveté, qu'un trait malhabile, raté, désagréable peut ruiner une autorité. Il faut imaginer ces essais ratés, puisqu'on ne les a pas conservés, et il faut, c'est un appel solennel, rééditer un petit oui et un grand non.
Ah oui, c'est un appel vibrant, c'est même, je dirais, un cri. Merci Manuel Charpie, c'est important, Christian Yoshko, ce rapport...
Georges Gross raconte aussi qu'il... copiait les dessins, les graffitis des latrines pour donner plus de nervosité à son style de caricature. En effet, Gross et Guston cultivent tous les deux ce goût du dessin populaire, de la culture populaire. Il appelait aussi ses personnages, ces espèces de bourgeois adipeux, il les appelait les bourgeois patraciens.
Ah oui.
Patraciens.
Didier Ottinger, ce rapport avec Gross et d'une manière générale avec voilà cette...
Oui, alors le lien existe réellement puisque quand il commence son activité d'artiste, Philip Guston regarde beaucoup une revue, Americana, ça doit être celle-là, dans laquelle Gross publie sur la côte ouest des États-Unis toute une série de satires politiques. Donc c'est une source importante pour lui, oui.
Et ça nous ramène, Christian Yoshko, à ce socle des années 30. Hein, qui est fondamental pour comprendre l'engagement politique de Philip Guston.
Oui, tout à fait. Le socle des années 30, l'expérience de la politique, la culture populaire, et aussi l'expérience des grandes campagnes politique, je pense à la campagne des Neufs de Scottsboro, qui est la première grande campagne internationale antiraciste, qui fait suite à un procès calomnieux fait à 9 Afro-Américains accusés à tort d'avoir violé 2 femmes blanches dans un train qui cheminait à la frontière de l'Alabama. Et ce procès des Neufs de Scottsboro a eu un effet retentissant aux États-Unis et en Europe. Guston, sa première exposition à Los Angeles, elle se fait dans le cadre du club John Reed, c'est-à-dire un club de culturel communiste lié à la revue The New Masses, et dans lequel il expose une fresque mobile sur ciment qui représente un des jeunes de Scottsboro.
Manuel Charpie, on parle aussi de cette culture visuelle, des comics. Y a une autre façon, effectivement, de poursuivre, j'allais dire, une autre histoire de l'art avec les grands auteurs de la BD.
Oui, c'est vrai que c'est connu, hein, mais vous évoquiez les comics tout à l'heure, et c'est vrai qu'on pense aussi dans ces années, fin des années 60, début 70, enfin j'ai l'impression, qu'on peut penser à des gens comme Crumb, enfin à Zap, à tous ces nouveaux fanzines, enfin petits journaux, oui, de la contre-culture qui apparaissent et qui aussi cherchent un dessin, volontairement mal fichu, qui en contrepoint, comme des sortes de parodies des comics.
Ce qui m'amène peut-être à vous poser une question, Didier Ottinger. On a juste fait une allusion au début de cette émission de l'importance grandissante pour les artistes, les jeunes artistes aujourd'hui, qui cherchent au fond une nouvelle voie à la figuration, de Philip Guston. Qu'est-ce qu'ils y trouvent, ou plutôt qu'est-ce que Philip Guston permet aujourd'hui? Alors,
il offre effectivement un exemple sans doute assez magistral d'une figuration qui ne cède jamais à la nostalgie, à l'académisme et à un réalisme trop exacerbé comme peut-être beaucoup d'artistes, jeunes artistes aujourd'hui, pratiquent une figuration un peu serrée, un peu limitée peut-être. Donc lui offre une voie inouïe de réinvention de la figuration. Et la deuxième composante, c'est évidemment l'option qu'il offre d'une peinture politique, mais sans jamais céder à une forme de propagande littéraire, à une forme de réalisme socialiste. Donc figuration réinventée, peinture politique réinventée, ça me semble être un cocktail qui peut satisfaire beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui.
Oui, surtout aujourd'hui. C'est ce que vous appelez l'ironie, mais d'une certaine manière, c'est aussi ce que vous décrivez, hein, Christian Yoschke. Il se débat avec cette volonté de servir contre l'injustice, de dire son...
Oui, la différence avec les années 30, c'est que dans les années 30, il s'engage à la manière des muralistes mexicains, et avec eux, avec Siqueiros, et à l'invitation de Siqueiros, notamment pour la fresque de Morelia, dans un art d'édification, dans un art qui est vraiment fait pour être public. Dans les années 70, sa perspective est différente. Il reste dans le champ des galeries, des musées, et il essaye d'introduire à ce public et dans cet espace des thèmes politiques sans céder à l'agitprop, sans céder à la propagande, en toujours en cultivant cet art de l'ironie, comme l'a souligné Didier Ottinger, et l'ambivalence qui est caractéristique de ces tableaux. L'ambivalence morale qui nous questionne en tant que spectateurs et spectatrices.
Philip Guston, l'ironie de l'histoire, à voir au musée Picasso jusqu'au 1er mars. Philip Guston, chanté aussi par Chestnut en 2009. C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Didier Ottinger, Christian Yoschke et Manuel Charpie. Les références de vos parutions, essais, livres, catalogues sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Alex Dang et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous. The line.
habits. Bad habits. Bad habits.